Chez Best Drive, nous ne pouvons pas vous dire s'il fera beau sur la route des vacances. Mais quelles que soient les conditions, nous vous garantissons une route plus sûre. Avec un diagnostic sécurité gratuit, nous nous occupons de la révision de tous les véhicules, de votre clim, du changement de pneus. Rendez-vous sur bestdrive.fr.
Best Drive, votre confiance, notre exigence.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
C'est la deuxième heure des Grandes Gueules avec toujours autour de la table Joël Dagosséry, coach de vie, Charles Consigny, Antoine Dierce. Tiens, en parlant de Joël, je ne sais pas si vous étiez avec nous vendredi, mais il y a eu un moment très très fort dans l'émission. Peut-être l'un des moments les plus forts de la saison. J'imagine qu'on en a beaucoup parlé ce week-end, Joël. Tu étais face avec les autres Grandes Gueules à Yael Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Et à un moment donné, tu as un peu craqué et tu as expliqué en quelques mots, qu'avez-vous fait de la France depuis 7 ans, puisque vous êtes au pouvoir depuis 7 ans, toi tu avais voté, tu l'as souvent dit ici, Macron en 2017, et tu avais fait part de ta déception et surtout de ton émotion. On reverra tout à l'heure ce moment très fort, pour ceux qui n'ont pas entendu, pas vu, vendredi. On en parlera ensemble avec les Grandes Gueules, ça sera tout à l'heure vers 10h20. Mais pour démarrer cette nouvelle heure ensemble, je voudrais quand même qu'on s'intéresse aux vedettes. Aux vedettes du premier tour, il y avait de fortes personnalités qui se présentaient. Je veux parler de François Hollande, Marine Le Pen, bien entendu, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Laurent Wauquiez, des ministres, etc. Certains ont été balayés, d'autres ont été réélus dès le premier tour. Allez, c'est parti.
RMC, les grandes gueules.
Et on va commencer par François Ruffin, en grande difficulté dans sa circonscription, puisqu'il est talonné par le Rassemblement national. D'ailleurs, on a appris depuis que la candidate macroniste se retirait, donc il y a un front républicain, pour sauver la tête de Ruffin face au Rennes. On écoute le député.
La montée du vote Rassemblement national, vous savez, ici, ça n'est ni une surprise, ni un coup de tonnerre, malheureusement. Donc, il s'agit de se dire que là, encore une fois, on peut faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire on peut se dire qu'il y a un arbitre et que c'est celui qui arrive en troisième position. Si j'étais arrivé en troisième position, j'aurais dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de majorité absolue. L'objectif, c'est que dimanche prochain, à la fin du match, il n'y ait pas de majorité absolue pour le Rassemblement national.
Voilà, alors on a bien compris, les macronistes, ils font un front républicain, mais ça dépend aussi de qui est à gauche. Et là, c'est un insoumis, mais fréquentable. Et donc, Emmanuel Macron a demandé à sa candidate de se retirer.
Une pensée pour tous les mecs de droite qui ont voté pour Macron ou ses candidats à Macron. Eh bien, aujourd'hui, les mecs de droite qui ont soutenu Macron soutiennent donc indirectement Monsieur Ruffin. C'est un coco gentil. Ouais, bon, d'accord, ok. Il est moins pire que d'autres, mais franchement, on atteint le fond du n'importe quoi.
Est-ce que les électeurs vont suivre? Est-ce que les électeurs vont suivre?
Je pense pas que les électeurs suivent beaucoup, mais ça montre quand même à quel point le système est prêt à toutes les contorsions idéologiques, à inventer tout ce qui est possible pour tenter d'empêcher une majorité pour le Rassemblement national.
C'est vrai, c'est
quoi? Pourquoi ils ont aussi peur? Je comprends pas.
C'est quoi un insoumis fréquentable et c'est quoi un insoumis qui ne l'est pas? Parce que là, on fait une distinction, là.
Je pense que quand même, Raphaël Arnaud, fiché S,
jeune garde,
pour des faits de violence, etc., n'est pas un insoumis fréquentable. Je pense que Rima Hassan, raconte n'importe quoi depuis plusieurs semaines, n'est pas une insoumise fréquentable.
Raphaël Arnaud est deuxième, il s'est qualifié pour le deuxième tour.
Je pense que Clémentine Autain, par exemple, elle est fréquentable.
Moi, il faut faire la liste des fréquentables.
Quand j'entends Clémentine Autain, je suis pas bouleversé.
Donc je repose la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc au RN, on peut avoir la même réflexion.
J'entends ta question, mais évidemment.
Restons sur les battus, les personnalités battues et donc.
Non, mais je veux quand même répondre à Antoine parce que je veux pas me défausser. Je pense qu'au RN, il y a des gens à peu près corrects. Oui, il y en a. Mais je pense que le parti dans son ensemble demeure un parti d'extrême droite. Et donc, je considère qu'on a le droit de mettre un no-go total dès lors
qu'il y a. Toi, tu fais pas de distinction au sein du RN,
mais c'est un no-go total
au sein des candidats insoumis. Alors, il y a d'autres personnalités. Par exemple, Jérôme Cahuzac. Oui, il se représentait, l'ancien ministre condamné pour fraude fiscale en 2018. Bah alors là, c'est un fiasco total. Hein. Il a fait 14%. C'est-à-dire qu'il est arrivé en quatrième position, derrière la candidate RN qui est en tête dans sa circo, dans le Lot-et-Garonne. Il y a un candidat d'hiver droite qui arrive deuxième et le nouveau Front Populaire qui arrive troisième. Jérôme Cahuzac, t'étais surpris ou t'étais sûr que il allait se planter, Joël Dagossier?
C'est logique, enfin. On a quand même, quoi qu'on dise Antoine avec ce truc d'adhésion, enfin, on a quand même une grosse part de dégagisme. Donc on l'avait dégagé, il est revenu par la petite porte, bah tu le redégages.
Ah, c'est la justice qui l'avait dégagé.
Oui, mais en même temps, enfin je veux dire, ce qu'on a découvert sur lui, je vois pas pourquoi tout d'un coup on lui donnerait une place à l'Assemblée nationale.
Il voulait une deuxième chance. Il dit qu'il avait payé sa dette.
Ah ouais, mais c'est trop tard. Et en plus le RN est en force, donc il aurait vraiment fallu qu'il soit je sais pas, qu'il soit François Hollande, tiens, on en parlera sûrement, pour se maintenir et pouvoir avoir la chance d'être à l'Assemblée nationale. Donc, non, enfin.
Alors, il y a Damien Abad, vous vous souvenez de Damien Abad, l'ancien ministre des Solidarités qui est accusé de viol? Bah, lui, il a été éliminé dès le premier tour dans sa circonscription, de l'Ain, où il a été élu quand même depuis 2012. Il se présentait sans le soutien de la majorité présidentielle et qui avait investi une autre candidate. Donc, Abad, ciao.
Bah c'est dur, non mais c'est dur pour eux. Moi je me réjouis pas de leur mésaventure. Même Cahuzac,
t'as de la pitié pour Cahuzac.
Oui, en un sens oui, si tu veux, je considère que c'est quelqu'un qui a payé sa dette à la société. Il a purgé sa peine, il a levé le droit de se représenter. Les électeurs ont tranché et ne l'ont pas élu. Mais je pense pas qu'on doive se réjouir de la débâcle des uns et des autres. Damien Abad, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a une vie compliquée. Donc moi, j'ai plutôt une espèce de pensée pour lui.
Mmh. Et là, d'ailleurs, la candidate investie par majorité présidentielle a été éliminée également. Fabien Roussel, ça c'est quand même plus surprenant, hein, le patron du Parti communiste qui est quand même très médiatique, plutôt apprécié. Alors peut-être qu'il est apprécié surtout des journalistes, à mon avis, parce que là, le patron du PCF s'est pris une rousse. Il a été éliminé dès le premier tour par le candidat RN dans la 20e circonscription du Nord. Il s'est dit battu, mais pas abattu. Et je voyais que son collègue Yann Brossat, le communiste, disait finalement dans le bassin minier, il n'y a plus un seul élu de gauche. Et donc au-delà de la défaite de Roussel, ça dit quelque chose quand même. Mais Fabien Roussel, en fait, c'est marrant parce que Fabien Roussel, il apparaissait comme étant le sympathique à côté de Jean-Luc Mélenchon. Et puis finalement, c'est lui qui est éliminé. Vous le regrettez?
Il a un problème, Fabien Roussel. Enfin, il est gentil parce que il a joué sur une carte un peu je suis le français de base, je suis franchouillard, oui. J'aime ça et tout.
Le barbecue. Donc,
c'est sympa, mais il a un handicap. Il n'est pas raciste, si tu veux. Enfin, je veux dire, il a oublié d'être raciste. Il aurait dû accoler.
Raciste pour que les électeurs du bassin minier votent pour toi.
Il faut faire en tout cas de l'immigration le problème principal de la France. Et malheureusement, Fabien Roussel, il a oublié.
C'est ça le moteur du vote dans le bassin minier.
Il a oublié donc ce paramètre là. Oublié d'accuser l'immigration tous les maux. Et donc, malheureusement, mauvaise
chance. Justement, dans le bassin minier, ça ne se joue pas là-dessus. Ouais. Dans le bassin minier, ça se joue sur des gens qui demandent de la considération.
Et Fabien Roussel n'en donnait pas de la considération.
Visiblement, plus sur les plateaux télé que dans sa circo.
Et donc, les gens, là-bas, ils sont sains. Et ils se disent, qui est-ce qui bosse pour nous en vrai? L'autre, il est à Paris. Est-ce qu'il fait quelque chose pour nous dans la circo, etc. Non, on vote pas pour lui. Nous, on veut le bonhomme qui vote pour nous chez nous. Ouais. Et c'est pas une histoire de race, etc.
En fait, le RN est en train de réussir
là où les autres ont échoué. De donner de la considération aux gens.
Antoine, on a compris que pour toi, le Rassemblement National, c'est vraiment un parti, si tu veux, quasiment une religion.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils sont tout bons sur tout.
Tu dis que c'est la lèpre. Je suis obligé de contrecarrer un peu.
Non, mais t'as raison d'être. Ils sont extraordinaires. Et d'ailleurs,
c'est pas ce que je t'ai dit. Les gens votent. Les gens y croient.
Mais Antoine, bien sûr, c'est la proximité qui a conduit les gens à voter RN, c'est-à-dire y compris des candidats dont on n'avait même pas la photo sur les affiches. Hein, je rappelle que dans le Jura, ils ont quand même présenté un candidat qui n'avait pas le droit de se présenter parce qu'il est sous curatelle.
Et là, il est qualifié pour le deuxième tour.
Il y a des bulletins sur lesquels il y avait à peine le nom du candidat, mais bien sûr, c'est parce qu'ils veulent celui qui est près de chez eux. C'est une vague.
On parlait du bassin minier où le RN est plus qu'implanté.
Ailleurs, il n'est pas implanté.
Mais il faut reconnaître
que dans le bassin minier,
ça fait longtemps qu'il y a une implantation. D'ailleurs, il y a un beau moment, Marine Le Pen, c'est vraiment ça.
Ils ont mangé le PS.
D'accord, mais il y a aussi l'effet vague qui leur profite à tous.
Clément Beaune, le ministre, l'ancien ministre des Transports, est présenté à Paris dans une circonscription qui est marquée à gauche. Il a été battu dès le premier tour. Alors lui, il a tout perdu dans l'année. C'est-à-dire qu'il était ministre, il n'est plus ministre, il était député, il n'est plus député. Et c'est le premier adjoint à la mairie de Paris qui travaillait aux côtés d'Anne Hidalgo, qui a été élu au premier tour. Alors pourtant, les deux se ressemblent, mais ils ont tous les deux travaillé pour Jean-Marc Ayrault, le socialiste.
Emmanuel Grégoire, il a détruit Paris avec Anne Hidalgo. Le Parisien que je suis peut en parler. C'était d'ailleurs ma circonscription, en l'occurrence. Ces deux candidats de gauche qui s'affrontaient pour proposer exactement la même chose, à savoir la destruction de Paris. Donc pour le coup, il n'y avait rien à sauver dans cette histoire. Moi, je considère que ce qu'ils ont fait
est
une catastrophe et qu'à Paris, on aurait bien besoin d'une alternance.
Alors, ce qui me fait rire, c'est que Clément Beaune, il a perdu sa place de ministre parce qu'il a essayé d'être de gauche, à l'heure où Emmanuel Macron fait voter pour les gens de gauche maintenant. Une question de timing.
Les frondeurs, en fait, ils perdent toujours. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des frondeurs sous François Hollande. Ils étaient persuadés que le fait d'avoir frondé un président impopulaire allait les sauver. Ils avaient tous été balayés ensuite par les législatives. Ça ne fonctionne pas. Il y a aussi quand même François Hollande, puisqu'on cite François Hollande. Alors, lui, il s'en est sorti. Il s'est qualifié en Corrèze pour le deuxième tour. Il est arrivé en tête avec 37,63%. Il y a une triangulaire, donc a priori, il devrait en profiter. Ouais. Et donc, on va avoir dimanche prochain l'ancien président sur les bancs de l'Assemblée.
Hein. Mais là, la triangulaire serait assez drôle. C'est-à-dire que ce serait un candidat LR, le canal historique, qui était le sortant, qui laisserait sa place à François Hollande.
Oui.
Les LR s'apprêtent donc.
Alors non, parce qu'à priori, les LR vont se maintenir. Parce qu'il va
se maintenir. Le troisième, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, mais il n'y a pas de désistement chez les LR.
Il va se maintenir. Donc ce sera une vraie triangulaire. Là, il n'y a pas de retrait. Ok. Si LR se mettait à se retirer pour faire élire François Hollande, là, j'aurais.
Donc a priori, François Hollande devrait passer. Et puis il y a Philippe Poutine.
Non, c'est pas fait. Hein. C'est pas
un retour triomphal.
Non, c'est pas triomphal du tout pour François Hollande.
Je trouve que c'est quand même triomphal parce que François Hollande, il a été obligé de démissionner quand même. Macron l'a obligé à sortir, à ne pas se représenter. Et il revient par sa circonscription.
Comme Giscard.
Et il se fait réélire. Donc moi, je trouve que François Hollande, en fait, il aurait pas dû être président. C'est quelqu'un qui est bien pour une circonscription sur le terrain. Il a compris ce que c'est la politique. Il se fait du Chirac. Il est très bon dans ce qu'il fait. On l'a vu
taper dans le dos.
Tu vois, comme ça fonctionne, il comprend, en fait, comment faire pour se faire.
C'est vraiment la politique à l'ancienne.
Exactement. Mais il est pas bon. Il aurait jamais dû être président.
Je prends le pari. Les gens vont vouloir le dégager. Et donc, les électeurs ont des réflexions au second tour. Et donc, ils vont voir le
dégager.
Et donc, je pense qu'il n'a pas assez d'avance pour être serein pour le second tour.
Non, mais c'est sûr. Il n'y a qu'à 37%. Il en faut encore 13. Il y a Philippe Poutou qui a réussi à se qualifier à l'arrache pour le deuxième tour dans l'Aude. 18,7%. Alors, c'est toujours étonnant parce que Philippe Poutou, c'est quelqu'un qui est contre ce système. Pour le coup, c'est vraiment l'extrême gauche. Puisqu'il est pour tout foutre en l'air, la révolution, etc. Donc, c'est marrant de le voir deuxième dans une élection législative. Bon, mais les Français ont décidé, et c'est le choix des Français. Sandrine Rousseau a été réélue dès le premier tour. Alors, il y a pas mal d'insoumis qui ont été réélus dès le premier tour aussi. Mathilde Panot, Clémentine Autain, Manuel Bompard, Émeric Caron, il y a aussi le socialiste Olivier Faure. Et on voit quand même que les insoumis et la gauche plus généralement sont très forts en métropole et dans les quartiers, en banlieue. En revanche, dès que tu sors de Paris, des grandes villes, dès que tu sors de, il y a plus personne. Alors là, la carte est assez impressionnante. C'est-à-dire la gauche n'existe plus en dehors aujourd'hui des grandes villes et des quartiers. Et on comprend mieux d'ailleurs la stratégie électorale de Jean-Luc Mélenchon de s'adresser plutôt à ses quartiers, aux grandes villes. Les écolos s'adressent beaucoup aux grandes villes, mais dès que tu quittes Paris, par exemple, plus personne vote écolo.
Non, mais il y a maintenant une fracture territoriale en France qui est incroyable. Paris-Province, grande ville, campagne, banlieue, reste du monde. Il y a pompeusement avant et un peu de manière on appelait ça la cohésion sociale, ça n'existe plus. Chacun est vraiment dans son couloir, dans sa bulle internet, dans son territoire.
Non, bah, dans ce, je suis pas tout à fait sûr, en fait. J'ai le sentiment que la gauche, effectivement, est morcelée entre une gauche de province, une gauche parisienne, enfin, gauche, etc. Elle est en difficulté beaucoup, aussi, mais en revanche, bah, j'ai le sentiment, en quelque sorte, que le Rassemblement National est en train de reconstituer une grande droite interclassiste.
Sauf dans les villes.
À l'image du RPR.
Sauf le problème, c'est que le RN n'arrive pas à parler aux villes.
Effectivement, le RPR à Paris, ça pesait un peu. Là, effectivement, le RN, ça passe pas.
Le RPR, de Gaulle, c'était le train 18, c'était le métro à 18h.
Mais là, on le voit bien, hein, avec des bourgeois, des CSP+, qui commencent à voter pour le RN.
Dans un instant, on va revenir sur cette séquence émotion, les larmes de Joël Dagosiri. C'était vendredi, je ne sais pas si vous étiez avec nous. On va voir quand même.
Une place dans le menu.
C'était un moment très fort entre Joël et Yael Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Je sais qu'on en a parlé tout le week-end. Moi, on en a beaucoup parlé. Ouais. Les séquences ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On va y revenir dans un instant. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, Charles Consigny, Antoine Dierz, Joël Dagosiri. Notez sur votre tablette ce rendez-vous ce soir. Il y a un documentaire exceptionnel, inédit, qui est diffusé sur RMC Story à partir de 21h. C'est un documentaire sur le 7 octobre, raconté minute par minute par la voix de Philippe Torreton. Et on va vous plonger au cœur de ces 24 heures d'horreur avec des images inédites, des témoignages rares de rescapés. Donc, documentaire exceptionnel ce soir sur RMC Story à partir de 21h. Avec Joël, Charles et Antoine, je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé vendredi. Joël Dagosiri était dans les grandes gueules. Face au GG, nous avions invité Yael Braun-Pivet, candidate à sa réélection, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Et à un moment donné, Joël, t'as un peu craqué en direct face à elle et tu as fait parler de ton émotion et ça a donné ça.
En tant que personne, je ne sais plus à qui j'appartiens, à quel pays j'appartiens. Je me sens presque apatride. Parce que je me dis, mais... Est-ce que je suis française ? C'est vraiment compliqué. Ça fait 3 heures que je me retiens parce que je me dis, mais je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je commente une politique comme si j'étais une analyste et tout. Mais moi, je suis une citoyenne, j'ai voté. Qu'est-ce que vous avez fait de la France ? Qu'est-ce que vous avez fait de la France dont on vous a confié les clés en 2017 ? Parce qu'on a cru en vous. Parce que j'ai cru que ce président comprenait le monde dans lequel on vivait, comprenait les Français. Qu'est-ce que vous avez fait de la France ?
Qu'avez-vous fait de la France ? Ça, ces mots résonnent. J'imagine que depuis vendredi, on t'a beaucoup parlé de cet échange qui était un moment de vérité.
On m'a surtout beaucoup écrit. Je crois que j'ai reçu, 200 messages et j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, donc je m'en excuse, mais c'est un peu compliqué de répondre à tout le monde. Donc on m'a surtout beaucoup écrit pour dire que j'avais exprimé ce que beaucoup de Français ressentaient, donc le désarroi dans lequel ils se trouvaient au moment de ce vote, à pas savoir déjà pour qui voter, donc de manière générale. Ensuite, beaucoup de messages aussi de Français d'origine étrangère qui ont exprimé leur émotion devant ce que j'avais moi-même exprimé et à quel point en fait ils vivaient exactement dans leur chair ce que j'avais exprimé, c'est-à-dire à savoir à se demander s'ils avaient encore une place ici, à sentir que petit à petit à se poser des questions tout simplement sur leur identité. Ce que aussi nos parents nous ont transmis, parce que moi j'appartiens à une génération, l'une des premières générations qui est née sur le sol français, avec des parents qui ont fait le choix de ce pays, en fait, pour nous. Et je me souviens qu'il y a quelques mois, j'avais exprimé le fait que je voulais partir de la France. Et ma mère m'avait appelé en sortant de l'émission et elle m'avait dit, mais tu vas aller où ? Je lui dis, je pourrais aller n'importe où, je peux aller en Espagne, je peux aller en Angleterre, je peux aller en Afrique, je peux aller n'importe où, en fait, comme n'importe quel expatrié qui décide de quitter la France ou aller à Dubaï, tous les jours, ça existe, ça. Et elle l'a pris vraiment personnellement, comme si, en fait, elle avait fait un mauvais choix pour moi. Elle a dit, mais c'est le pays qu'on a choisi pour vous. Elle m'a dit, c'est ton pays, c'est le pays qu'on a choisi pour vous. Et donc, il y a beaucoup de Français comme moi qui me ressemblent politiquement déjà, donc qui sont plutôt dans un centre droit, centre gauche, et qui se retrouvaient pas du tout dans ces élections, qui étaient complètement perdus, mais vraiment qui étaient pas perdus comme moi, je sais pas qui voter, mais vraiment émotionnellement perdus dans leur tête, dans leur cœur, et des Français d'origine étrangère ou des binationaux. J'ai aussi reçu beaucoup de messages de franco-portugais, de franco-espagnols qui expliquaient à quel point ça les avait heurtés, en fait, le fait qu'on puisse remettre en question leur loyauté à l'égard de la France. Donc effectivement, j'ai reçu énormément de messages. Maintenant, c'est une séquence, voilà, ça s'est passé parce que les gens me connaissent, hein, ça fait 8 ans que je suis ici et ils savent que, comme je dis, ça sort comme ça sort. Des fois c'est bien, des fois c'est mal, etc. Mais bon, je m'autorise à être celle que je suis. Après, voilà, ça s'arrête là. Comme je dis, là, je suis déjà à la prochaine émission. Voilà, j'ai dit les choses comme je le sentais à ce moment-là.
Non, mais ce qui était fort, je sais pas ce que vous en pensez, c'est en fait, tu as cru en Emmanuel Macron, tu l'as souvent dit, c'est en 2017.
Bien sûr, j'ai voté en 2010, alors pas en 2022, mais en 2017.
Mais quand t'as dit,
j'ai voté par réelle adhésion.
Voilà, qu'avez-vous fait de la France? J'ai souvenir de ce que disait le soir de l'élection d'Emmanuel Macron au Louvre, vous vous souvenez, où il nous dit, en fait, avec mon élection, vous n'aurez plus besoin de voter pour les extrêmes. Il l'a dit, ça. Et finalement, on se retrouve 7 ans plus tard, où la gauche s'est quand même radicalisée, et aujourd'hui, la droite a été quasiment remplacée par une offre beaucoup plus radicale également, Charles.
Mais c'est amusant quand même, enfin amusant non, mais intéressant ce qui se passe, parce que il y a aussi un syndrome qui était un peu arrivé aussi à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire... au début, ça a l'air, c'est moderne, ça donne envie, il y a de l'énergie, il y a de la nouveauté. Le gars, une fois élu, prend le melon, s'empêtre dans son melon, est encombré par son ego, parle trop, se perd dans le moi, et il finit son mandat avec des conseillers plutôt à droite de la droite en réalité, qui lui conseille des trucs complètement cons en lui disant que c'est comme ça qu'il va renouer avec l'histoire. Nicolas Sarkozy avait Patrick Buisson, Emmanuel Macron a Bruno Roger Petit.
Patrick Buisson l'a fait gagner quand même, Sarkozy.
Je suis pas sûr, moi. Oh. Il y a plusieurs grilles d'analyse.
En tout cas, Bruno Roger Petit, il a eu le nez creux sur la dissolution.
Antoine, j'entendais il y a pas très longtemps, je crois que c'était Guénaud, qui relevait que quand Nicolas Sarkozy, dans la campagne de 2007, annonce le ministère de l'immigration, en réalité, il baisse dans les sondages à ce moment-là. Donc bon, il y a plusieurs analyses possibles. Mmh. En tout cas,
le Sarko de 2007 n'était pas celui de 2012.
J'observe des chemins similaires. Je pense que l'Élysée quand même rend fou, que le système est trop polarisé sur le président. Mmh. Et par ailleurs, Joël, moi, je n'ai jamais vraiment cru à Macron. Je pouvais me dire que, pour la France, mettre un jeune mec, moderne, etc. Je me disais, bon, why not, à la limite, ça nous donne une bonne image. Mais j'ai toujours trouvé ça bidon, parce que il y a pas de choix, en réalité. Il y a pas de vrai chemin. Et d'ailleurs, les macronistes, ils sont quand même généralement bien en peine d'expliquer pourquoi ils se battent. Au mieux, c'est une espèce de pragmatisme. On fait en sorte que le pays aille mieux, que l'économie aille bien, que le quotidien des gens s'améliore ou en tout cas ne dégringole pas. On voit qu'en pratique, en fait, ils ne sont pas bons à ça. On a entendu tous les témoignages aujourd'hui, que ce soit sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur un certain nombre de sujets comme ça. En fait, ils sont pas bons. Même sur l'international, d'ailleurs, à mon avis, Macron n'est pas très bon. Le seul sujet sur lequel il a un résultat, c'est quand même le chômage et l'attractivité économique. Il faut lui reconnaître ça, si on est complètement juste. C'est le seul sujet sur lequel il a un bilan positif. Sur tout le reste, en réalité,
sur une politique qui avait commencé
pas
François
bon.
Hollande, d'ailleurs.
Oui, absolument.
La politique de l'offre.
Mais absolument. Sur tout le reste, c'est pas très bon. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours trouvé ça très marketing, très quadra, analphabète, McKinsey, qui croient à rien à part à leur petit confort. Et donc, fatalement, parfois, l'histoire reprend ses droits.
Mais Antoine, le « en même temps », c'est devenu tout et son contraire. Et c'est peut-être aussi ça, l'échec du « en même temps » macroniste. Sur tous les sujets, d'ailleurs.
Pour que Joël ait été déçu à ce point d'Emmanuel Macron, effectivement, c'est l'échec absolu du en même temps. Joël, je pense ta peine sincère, quoi, ton émotion sincère.
C'était sincère.
Mais je suis vraiment surpris parce que tu fais partie de ceux qui peuvent imaginer aller vivre dans un autre pays. Je vais être expat, etc. T'en parles comme ça.
Il y a régulièrement.
90% des Français qui ne peuvent pas déménager, qui sont d'ici, etc.
Oui, bien sûr.
Tu fais partie, à mon avis, d'une partie de la population plutôt aisée. Il y a 90% des Français qui, eux, ont plus de difficultés que toi. Et tu arrives quand même à avoir cette espèce de tristesse absolue, cette crainte pour l'avenir, alors même que le Rassemblement National ne devrait pas être une angoisse pour toi. Toi qui dis souvent qu'on a un problème d'insécurité, je pense que c'est le parti qui en parle le plus pour régler le problème. Toi qui te sens pleinement française, je pense que c'est le parti qui veut le plus défendre les Français. Et donc, vraiment, dans ta sincérité, que je ne remets pas en cause, je ne comprends pas comment on en est arrivé à un point où tous Français, on se comprend même plus sur ce qu'on espère pour notre pays et on n'arrive même plus à trouver ensemble un chemin. Je pense qu'on veut la même chose pour notre avenir.
Alors, c'est intéressant.
Mais on n'a pas du tout les mêmes solutions. Non,
parce qu'il y a Patrick qui est avec nous et qui a changé son vote après t'avoir entendu vendredi. Donc, je voulais écouter Patrick. Bonjour, Patrick.
Un émotif.
Bonjour, les grands gueules.
Bonjour, Patrick.
Vous nous appelez le Puy-de-Dôme. Expliquez-nous comment vous avez réagi. Est-ce que vous avez entendu vendredi
Elle m'a touché énormément. Pourtant, je ne suis pas d'accord avec elle des fois, parce que bon, elle protège plus ou moins, on va dire, allez, M. Macron. Puis bon, et comment dire. Et puis, moi, je voulais changer. J'en avais marre. Vous savez, de tout ce que j'ai écouté.
Patrick, dommage. Bon alors Patrick, il voulait dire qu'en fait il voulait voter RN et que finalement il a fait différemment après t'avoir écouté vendredi. Barbara Lefebvre est avec nous. Bonjour Barbara.
Bonjour à tous.
Je sais que c'est salut la Barbara. Pause parce que tu surveilles le brevet des collèges ce matin.
Ah comme ma sœur.
Bah oui. Les troisièmes planches en ce moment. Alors très rapidement parce qu'on appelle comme ça les grandes gueules pour avoir votre ressenti après cette soirée électorale assez exceptionnelle puisque les résultats confirment donc le Rassemblement National est au port du pouvoir. Comment tu as vécu cette soirée?
Sans grande surprise, je me doutais du score assez haut du Rassemblement National. Je pense que quand même, il faut bien comprendre ce qui se passe. 2017, 8 députés, 2022, 89 députés, et 2024, ce sera au-delà de 200. Voilà, donc c'était un signal. Monsieur Macron, je crois, voulait la clarification. Je pense que les Français ont clarifié la situation. En ce qui me concerne, j'estime que la deuxième étape de la clarification, c'est sa démission. Parce qu'en réalité, l'Assemblée nationale va être ingouvernable. Je ne crois pas que le Rassemblement national ira jusqu'à la majorité absolue. Donc on va continuer dans la popole catastrophique dans la version macroniste. Je crois aussi que cette élection a montré où se situe aujourd'hui, à mon sens, le danger pour la République. Moi, excusez-moi, mais quand j'ai vu hier... que M. Mélenchon était le premier pour le nouveau Front Populaire à prendre la parole flanqué de Rima Hassan, je me suis dit d'accord, on a bien compris le signal qui est envoyé et quand je vois aujourd'hui des Madame Agresti Roubache ou pire encore un socialiste qui appelle à voter pour Raphaël Arnaud, mais là je suis estomaquée et absolument stupéfaite. Donc je me dis que vraiment les temps qui arrivent vont être très troublés. Et je m'étonne que les gens soient à ce point troublés par la montée du Rassemblement National, parce que celle-là, on la connaissait et on la voyait venir. Mais je pense que là, je ne sais pas si vraiment les électeurs, et en particulier les électeurs de gauche, se rendent bien compte de l'alternative qu'ils ont, qui est de voter pour des Poutous, pour des Raphaël Arnaud, pour des Boyards, des Guiraud. Je suis estomaquée, surtout quand on voit les signaux qui ont été envoyés hier par Jean-Luc Mélenchon et par ses acolytes. Le message était très clair et ce message-là, je le pense, les Français n'en veulent pas. Donc, je pense que les mains des LR et des Modem, ce sont ces électeurs-là qui demain vont donner ou une majorité absolue au Rassemblement National, mais j'en doute. Mais en tout cas, qui vont, je l'espère, faire barrage à LFI, parce que pour moi, le vrai barrage républicain, c'est le barrage contre LFI.
D'accord, oui, toi, c'est LFI qu'il faut. Mais aujourd'hui, la gauche a très peu de chances de gagner. Hein. Mélenchon ne sera pas à Matignon. Si je dis ça, je ne prends pas beaucoup de risques. Au regard du résultat du premier tour, la gauche, finalement, fait à peu près le même score qu'aux européennes, même un petit peu moins si on additionne toutes les forces de gauche aux européennes. Et puis, il n'y a pas de réserve de voix au deuxième tour. Alors, on va voir si le Front républicain leur profite. Peut-être que leur réserve de voix, c'est les macronistes, ce qui est d'ailleurs assez ironique.
Moi, j'entends bien, mais comme on entend un discours qui essentiellement moralisateur, qu'on nous explique que c'est un vote sur les valeurs. Donc moi, je suis désolée, les valeurs que je défends, ce sont des valeurs républicaines, des valeurs anticommunautaristes, des valeurs de laïcité, tout ce que ne représente absolument pas LFI. Donc en ce qui me concerne, j'estime qu'aujourd'hui, le danger pour la République, les factieux, ceux qui veulent abattre la République, ce sont les LFI. Ensuite, peu m'importe qu'ils ne soient pas au port du pouvoir ou qu'ils soient au port du pouvoir. Moi, je considère que ces gens-là sont extrêmement dangereux et ils sont dangereux pour la paix sociale dans ce pays. Que le Rassemblement national soit dangereux sur des questions d'ordre économique ou autre, je veux bien l'entendre. Mais sur la question des valeurs, puisqu'apparemment on invoque les valeurs, on n'entend que ça depuis hier soir. Moi, je suis désolée, les valeurs, et je ne crois absolument pas qu'un électeur LR, un électeur Modem, un électeur Horizon, ni même un électeur macroniste, pourra mettre un bulletin LFI, parce qu'on a bien compris hier qui est le premier qui a pris la parole pour le nouveau Front populaire, c'est Monsieur Mélenchon, flanqué de Bompard d'un côté, Rima Hassan de l'autre, donc pour moi tout est dit. Et je considère que ceux qui votent LR...
Oui, mais Barbara, tu te rends bien compte quand même que par exemple Mélenchon, quand il fait ça, il fait un coup politique contre ses petits amis de la gauche, pour leur montrer qu'il existe encore. C'est pas eux qui se concertent pour envoyer Mélenchon prendre la parole en premier.
Donc ça nous montre bien qui a la main sur le nouveau.
Dans les rapports populaire. De force, oui.
Oui, mais il y a quand même, je veux dire, LFI, t'as quand même. Regarde,
ce que dit Barbara, c'est que le reste de la gauche est pris en otage par Mélenchon.
Je comprends ce qu'elle dit, mais par exemple, une personne comme Clémentine Autain. Moi, je la trouve pas anti-républicaine.
Tout à fait d'accord. Ni François Ruffin, mais ils vont faire perdre François Ruffin. Ça, c'est sûr qu'ils vont faire perdre François Ruffin. Et au GG, je l'avais dit il y a déjà 2 ans, il faut que Clémentine Autain, Corbière, Ruffin quittent Mélenchon, quittent la France Insoumise, ça fait 2 ans que je le dis, et qu'ils créent un nouveau parti, un vrai parti de gauche. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés aux mains de Mélenchon et qu'ils ne l'aient même pas fait après le 7 octobre. Ça montre bien que jusqu'au bout, ils ont envie de s'enfoncer dans cette boue. Parce qu'aujourd'hui, le Durafour crématoire, on sait où il est. Il est chez Mélenchon. Et on l'a vu hier. Et en plus, il est mélangé avec l'islamisme. Donc excusez-moi, mais ça, c'est le vrai danger pour la République.
Merci Barbara. On va te laisser continuer à surveiller les élèves du brevet du collège. On a retrouvé Patrick.
Ça doit pas mourir.
Patrick du Puy-de-Dôme qui a changé de vote en écoutant Joël. Patrick, il nous reste 1 minute. J'espère que la liaison est bonne. Patrick,
Macron, il a voté RN.
Alors expliquez-nous. Vous avez écouté Joël. Vous avez été ému par la prise de parole de Joël. Et vous avez changé d'avis, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait. J'étais pour le changement, et c'est-à-dire que je voulais voter pour ceux qui ont pratiquement gagné là. Et puis au dernier moment d'avoir écouté Joël, elle m'a pris et j'ai dit mais réfléchis, analyse bien et tout, et je me suis pas trompé et j'ai pas voté dans ce sens-là. Et j'ai voté pour, on va dire, le député du coin, on va dire. Voilà.
Faut pas se laisser attendrir comme ça, Patrick. Vous avez vraiment cru que Joël serait en danger demain si le Rassemblement national
était là ? Parce que comme c'est moi qui.
Oh d'accord.
C'est pas toi.
Exactement.
Antoine.
Il reste 20 secondes.
Déjà,
on a pas
déjà
le
Patrick.
De parler,
Patrick, merci, oui. Merci beaucoup d'avoir réfléchi.
Non mais vous m'avez touché.
Et c'est vrai que j'ai pas fait pour ça. Et j'ai fait pour exprimer quelque chose que je ressentais. Mais je sais que beaucoup de personnes ont ressenti la même chose. Donc je veux juste vous dire merci. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
C'est moi qui vous dis merci. Et vous m'avez ouvert les yeux.
Bon, merci Patrick.
La séquence émotion.
Merci les grands
gueules. Ça énerve Antoine.
Qu'est-ce que tu crois que tu crois que ton Bardella, il fait pas de l'émotion ?
Mais vous inventez.
Tu crois ?
Vous inventez un truc. T'es pas en danger demain.
Je vais juste répondre à quelque chose qu'a dit Antoine tout à l'heure lorsqu'il a dit que moi je pouvais me permettre de partir et que 90% des Français ne le pouvaient pas. Enfin, je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent que je suis pas née à la table des grandes gueules. D'accord. Donc je suis née moi dans le 93 en haut d'une tour et donc voilà, quand tu me dis que toi tu as de l'âge, je pense que tu peux partir. Donc
en quoi ça te rend différent de Jordan Bardella?
Je t'explique. Ça veut tout simplement dire que si aujourd'hui je me dis que je peux partir, c'est parce que justement je me suis pas arrêtée aux gens qui m'ont dit que tu sais, on veut pas que tu réussisses parce que un tel c'est la faute d'un tel si tu réussis pas et c'est de la faute à ta pauvreté si tu réussis pas, etc. Comme le discours que Bardella tient en disant que c'est la faute des étrangers que si vous n'allez pas bien. Ça, donc voilà.
Merci à Patrick.
Non, je m'invente pas un monde. Non.
Dans un instant, mes chers GG, les Français en direct, tous les jours, toute la semaine, opération spéciale sur RMC, la rédaction va sillonner la France pour aller à votre rencontre, pour essayer de comprendre ce vote à quelques jours du second tour. Et nous serons avec Martin Cadoret dans le Morbihan en Bretagne. Il a rencontré Daniel, un retraité, sympathisant de gauche, assez engagé et qui va peut-être s'abstenir au deuxième tour. Bah, visiblement, les consignes de vote, ça marche pas à tous les coups. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Charles Consigny, Antoine Diers, Joël Dagosséry. On débriefe. Oh là, attention, l'alerte pour aller assister au quart de finale de l'Euro peut-être avec l'équipe de France. C'est maintenant, il faut vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024. Elle est simple cette expérience, on vous envoie à Hambourg vendredi pour assister au quart de finale qui opposera le vainqueur de France-Belgique au vainqueur de Portugal-Slovénie. Vous rencontrez les équipes d'RMC avant le match. Vous avez vos deux places pour le quart de finale à Hambourg, vol plus hôtel. Mais pour ça, il faut vous inscrire dès maintenant. Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. À vous de jouer. Alors, mes chers GG, on débriefe ce premier tour des législatives. Il va se passer plein de choses passionnantes pendant la semaine qui vient. Déjà, on va recevoir des candidats, des politiques. Il y a plus de 300 triangulaires. Vous savez que les candidats, encore en lice, ont jusqu'à demain, 18h, pour décider de se maintenir ou pas. Il y a des endroits où ils vont se maintenir et puis d'autres, ils vont se retirer, les désistements, etc. Il y a des consignes de vote qui ont été données par les états-majors. Est-ce qu'elles seront suivies? Est-ce que vous pensez que le Front républicain peut encore fonctionner? On en parlera à 11h. Il y aura un long débat là-dessus parce qu'il se passe beaucoup de choses, notamment au sein des macronistes où on n'est pas d'accord. Certains veulent faire barrage autant au RN qu'à la France insoumise. C'est le cas de Bruno Le Maire ou encore d'Edouard Philippe. Alors que d'autres disent non. L'objectif, c'est avant tout battre le RN. On en parlera tout à l'heure à 11h avec les grandes gueules. Mais pour continuer nos discussions, on va s'intéresser à ces terres de gauche qui ont basculé aux mains du RN.
RMC. Législative 2024, les Français en direct.
Je disais tout à l'heure, les grandes villes ont résisté à la vague RN, mais dès qu'on quitte ces grandes villes, dès qu'on quitte les banlieues, eh bien on s'aperçoit que le Rassemblement National progresse partout, est arrivé d'ailleurs en tête de 297 circos sur 577, et dans des territoires qui étaient jusqu'à présent très marqués à gauche, désormais c'est le Rassemblement National. Par exemple, Fabien Roussel éliminé dans le bassin minier, en fait, il n'y a plus du tout d'élus de gauche dans cette région, précisément dans le nord de la France. Alors pourquoi les terres de gauche votent aujourd'hui RN? On en parle avec les GG. Qui veut commencer, Charles?
Pardon,
parce qu'on me dit que Martin Cadoret est avec nous. C'est, vous le savez.
Qui est-ce?
Martin, c'est un des reporters de la rédaction d'RMC. Et des reporters qui sillonnent cette semaine toute la France pour essayer de voir effectivement pourquoi les Français votent, ce qu'ils ont voté, le récit de vie de Français d'horizons divers. Et Martin, bonjour Martin. Et dans le Morbihan en Bretagne, auprès de Daniel. Daniel, c'est un retraité et un sympathisant de gauche assez engagé. C'est ça ?
Exactement, il s'est un petit peu engagé dans la campagne pour tracter pour le nouveau Front populaire. Si sa candidate s'est pas encore désistée, elle va probablement l'annoncer ce soir. Elle est dans une configuration de triangulaire où elle est troisième. Donc si elle suit les consignes des responsables de gauche, elle devrait se désister. Mais Daniel, lui, il m'expliquait qu'il irait pas faire barrage, qu'il s'abstiendrait dimanche prochain en cas de duel ensemble RN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Daniel?
Je vais m'abstenir puisqu'il ne faut pas laisser une voix au Front National. Maintenant, on attend ce soir comment on retrouve le groupe avec qui on a travaillé la semaine dernière pour prendre la décision. collectivement, c'est pas uniquement le choix de la candidate.
Mais vous, en tant qu'électeur de gauche, vous voterez pas contre le RN, vous allez pas voter pour la candidate macroniste.
Je ne vais pas non plus voter pour la candidate macroniste, je voterai blanc, il y a de fortes chances.
Pourquoi ?
Parce que Macron a fait trop de dégâts. S'il y a une poussée du Front National, on sentait cette vague venir. Elle est depuis quelques années. La Bretagne, qui était une terre socialiste, a penché vers le Front National. J'habite une petite ville pas loin de la campagne. Je m'aperçois que les gens sont complètement désemparés. Ils ont peur. Ils ne savent plus comment. Ils n'ont plus de médecins. Ils n'ont plus de poste, comment c'est compliqué pour tous ces gens-là. J'ai tracté sur le marché, les gens vont au Front National. En fait, ils ont essayé la gauche, la droite, et maintenant c'est la troisième solution qu'ils essaient. On verra, on en reparlera dans un an, parce que je pense que Macron est en train de nous préparer une dissolution l'année prochaine.
Je vois que Daniel, bonjour Daniel, celui de Truchot, vous suivez bien la politique, hein, je vois que vous êtes bien au fait de ce qui se passe, mais pour vous en fait une consigne de vote venue des états-majors, ça n'a pas beaucoup de sens ?
Ben en fait ça a beaucoup moins de sens qu'avant.
Ouais.
Les gens commencent à dire on passe au-delà, puisque le problème de l'état-major c'est qu'ils ne sont pas sur le terrain. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne voient pas sur le terrain. Il y a des gens qui ont labouré le terrain. À un moment donné, c'est leur chance, il faut leur laisser la chance.
Charles, tu comprends ce que dit Daniel ? C'est-à-dire qu'il dit, donc c'est un sympathisant de gauche, hein, il a le choix entre un candidat de la majorité et le Rassemblement National. Lui, il dit, je ne me vois pas voter pour le candidat d'Emmanuel Macron, parce que je suis contre cette politique.
Non, je dois dire que je comprends qu'on ne veuille pas suivre de consignes de vote. Moi, je n'ai pas la prétention de penser qu'une quelconque consigne de vote puisse aboutir à des votes automatiques. En revanche, même si moi j'ai été très critique du macronisme, je pense que les macronistes ne sont pas la même chose que le Rassemblement National, n'ont pas la même histoire, ne sont pas composés par les mêmes profils, et même s'ils ont pu être décevants à choisir, moi je préfère encore un macroniste, malgré toutes les critiques que j'ai pu émettre, à un candidat du Rassemblement National. Donc non, je ne comprends pas tout à fait la position de notre auditeur, même si je
Daniel.
Respecte toutes les positions, chacun
fait ce qu'il veut,
fait ses choix en conscience.
Daniel ?
Oui.
Donc, vous avez entendu ce que dit Charles ?
Oui, j'ai entendu, oui. Donc en fait, c'est vrai que le lundi 8 juillet, je préférerais me réveiller avec un député issu de la Macronie plutôt qu'un député du Rassemblement National, puisque ça risque de nous entraîner beaucoup de migraines. Mais je continue.
C'est qui votre candidat
On parle pas Sirco.
Alors, on va pas parler de la
circonscription.
Ah bon.
Alors, je rappelle les règles, parce que si on parle de la circonscription précisément, ensuite, on ouvre un temps de parole et on doit donner la parole à tout le monde. C'est compliqué.
Oui, voilà.
Mais les règles sont un peu strictes.
Regardez quand même qui sont les candidats, cher Daniel.
Mais vous les connaissez bien, les candidats chez vous ?
Je les connais, oui, je les connais. Enfin, sauf celui du Rassemblement National que j'ai aperçu l'autre jour. Mais j'ai pas engagé de conversation avec lui, vous pensez bien.
Ouais, un dernier mot de Joël.
Oui, non, mais je comprends la logique de Daniel. J'ai même moi-même réfléchi à dire, bon, écoute, moi, je vais pas encore faire un vote contre, etc. Néanmoins, même si on ne vote pas RN comme le fait Daniel et qu'on s'abstient, je considère que c'est aussi une façon de normaliser le Rassemblement National et de considérer qu'on pourrait s'abstenir et voter blanc lorsque on a un candidat d'extrême droite face à un candidat pour lequel on n'a pas envie de voter.
Oui,
et comme,
mais le vote
finalement,
blanc n'est pas reconnu.
Comme finalement, je ne veux pas aller jusqu'à normaliser non plus le Rassemblement National et me dire que finalement, j'ai personne de mon camp, donc je ne vote pas. Bah non, j'adopte la position de Charles et je voterai contre qui que ce soit, même si c'est une chèvre. Parce que souvent, on a dit à Macron que, à la première édition, que même une chèvre avec le nom d'En Marche pouvait être élue. Bah, même si c'est une chèvre, j'irai voter.
C'est une façon aussi de contester, puisque depuis beaucoup d'années, on ne fait que voter contre.
Oui, je sais très bien, Daniel.
Le vote blanc est tout à fait respectable.
Mais il n'est pas reconnu.
Il n'est pas reconnu, mais c'est mieux d'ailleurs d'aller voter que s'abstenir, parce qu'on fait la démarche d'aller voter.
Alors justement, à ce sujet, on s'est rendu compte qu'il n'y a jamais eu autant de nouvelles inscriptions.
Oui, c'est vrai.
Des gens qui n'ont pas voté depuis 10 ans se sont réinscrits. Les jeunes étaient là en nombre. Alors qu'est-ce qu'ils ont voté, on ne sait pas.
Bon, Rassemblement National, souvent. Mais je vous pose une question, Daniel. C'est que vous avez ne pas vouloir vous réveiller le 8 juillet avec un député RN.
Voilà.
Qu'est-ce que vous craignez au fond de vous? Qu'est-ce qui se passerait d'après vous si le RN avait la majorité absolue?
Alors, si le candidat du RN est élu, je ne sais pas comment ce qu'il va faire. Il n'a aucune expérience, il n'a jamais été sur le terrain. Donc lui, il ne fera qu'aller à la chambre d'enregistrement.
D'accord.
Vous préférez
merci Daniel. Non, toi, c'est terminé. Il est vraiment indiscipliné. Je t'ai dit qu'on n'avait plus le temps parce qu'il y a les infos qui arrivent. En tout cas, merci Daniel d'avoir dialogué avec les grandes gueules. Merci à Martin Cadoret qui était à côté de vous. Et on continue les Français en direct. Tout à l'heure, on ira du côté de Montargis dans le Loiret. Vous vous souvenez, à Montargis, c'était une des villes qui avait été touchée par les émeutes l'an dernier. D'ailleurs, il y a encore les stigmates. Si vous allez à Montargis, vous voyez encore des commerces qui n'ont toujours pas été réparés, etc. Et on verra comment on a réagi du côté de Montargis. Dans un instant, la suite des grandes gueules sur RMC Story.